Ce fut à l'école déjà qu'on fit de nous des concurrentes. On se regardait chien et chat, on détestait les redoublantes. Souffre, douleur ou bien faillote, on se poussait toujours plus haut. On s'arrachait les bonnes notes, on pleurait devant le tableau. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Au coude à coude, j'imagine qu'il n'aurait pas fallu longtemps pour qu'on soit toutes aussi bonnes, malgré les pionnes et les parents. Ensuite, en face des garçons, commença la grande offensive. On se fabriquait des façons, des rendez-vous sur l'autre rive. Et grande bringue ou blanche neige, c'était à qui amènerait tous les boutonneux du collège à l'accompagner sur le quai. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Bras dessus, dessous, j'imagine qu'on aurait de ces débutants avant que la vie les assomme, puis faire des hommes par des enfants. Un peu plus tard, c'est la beauté qu'on nous érigea en barrière. On se retrouvait insultés si on n'était pas la première. Nos amitiés faisaient sourire, fallait nous crêper le chignon. Et tout ce qu'on pouvait se dire n'était que fadaise ou chiffon. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Main sur l'épaule, j'imagine qu'on aurait pu, se regardant, voir qu'on était toutes assez belles, et même celles qui ont pas. Pareil dans nos métiers, on nous oppose et on nous monte en épingle pour mieux montrer qu'on se trouve en dehors du compte. Pour peu qu'on dépasse la tête, on est toujours une exception, chacune sur notre planète, ce qu'on a pu tourner en rond. Si on se retrouvait frangine, on n'aurait pas perdu son temps. Unissant nos voix, j'imagine qu'on en dirait 20 fois autant et qu'on ferait changer les choses. Et je suppose aussi les gens, et qu'on ferait changer les choses. Allez, on ose, il est grand temps.
Radio Libertaire 89.4. Et voilà, l'été va bientôt être fini. C'est la rentrée pour les élèves, c'est déjà fait déjà depuis quelques jours. Et c'est la rentrée de Remue-Ménage féministe sur Radio Libertaire, comme tous les mardis de 12h30 à 14h30. Aujourd'hui dans le studio, Kadia est derrière les boutons de la technique. Bonjour Kadia. On dit bonjour à nos copines Marie-Hélène, Catherine et Sylvie. Sylvie qui aurait dû être avec nous et qui a un petit problème de santé à gérer, c'est plus urgent. Et donc nous allons passer 2 heures en votre compagnie, Kadia et moi. Nous, au menu de cette émission, nous n'avons pas d'invité, mais nous voulons partager avec vous les lectures de notre été et une deuxième partie sur les informations militantes. Mais en début d'émission, je voudrais rendre fémage à la chanteuse Catherine Ribeiro, qui est une de mes idoles, si je n'avais pas d'idole en tant qu'anarchiste. Mais elle a quand même beaucoup marqué ma vie par ses très belles chansons, sa très belle voix et son soutien à Radio Libertaire. En 1994-95, elle a fait un concert pour soutenir notre radio en compagnie de Louis Capard, Marie-Josée Villard et Gilles Servin. Le monde dit d'elle, rock, révolté, radical, l'actrice française est morte le 23 août 2024. Yann Plougastel, qui écrit cet article, se souvient. Elle arrivait sur scène des poings tendus. en noir des pieds à la tête, avec une frange qui lui mangeait les yeux, le regard d'une combattante, le sourire d'une amante, la voix d'une militante. En l'écoutant, en la voyant, on se disait que cette femme-là ne devait rien à personne, quitte à en payer le prix. Elle était la Ribeiro, la sœur des sans-grades, de ceux qui ont appris leur enfance face aux fumées d'usine, de ces écorchés vifs qui ont connu la douleur avant le plaisir. Mais aussi la grande Catherine, sorte de Janis Joplin à la française, saisie par Baudelaire. Elle disait « Les paroles ne sont qu'un accessoire. Je préférerais qu'on en arrive presque à des onomatopées pour remplacer les paroles. On le fera peut-être. Il faudrait que la voix serve d'instrument. » Et je me souviens, dans un de ses disques, elle l'a fait. Elle avait une chanson où ce n'était que des onomatopées. Pendant longtemps, la télévision l'ignora, la radio la bouda, la grande presse la regarda de haut avec son groupe Alpes, ce qui ne les empêcha pas de donner des milliers de concerts, de remplir des salles aussi prestigieuses que l'Olympia ou Bobigno, de vendre des dizaines de milliers d'exemplaires de leurs albums. La marginalité ne la revendiquait pas, elle leur fut imposée. Nous vous proposons maintenant d'écouter une de ses chansons. Merci Catherine.
Bonsoir. Je voudrais pouvoir t'aimer 2 ans, 3 ans, 10 ans. Jusqu'à ce que la force de t'aimer me manque, que le bonheur de t'aimer s'estompe, afin que je puisse aimer quelqu'un d'autre que toi, quelque autre chose que toi.
Catherine Ribeiro enlève jusqu'à ce que la force de t'aimer me manque. Vous êtes dans l'émission Remue-Ménage féministe sur Radio Libertaire 89.4.
Et donc, pour cette émission, nous allons partager le temps entre des informations militantes et des extraits des livres que nous avons découverts cet été. Dans les nouvelles qui nous sont parvenues, notamment grâce à la revue, la newsletter à laquelle on peut s'abonner sur le site capire.mov, capire.mov, qui est en fait une émanation de la Marche mondiale des femmes, elle nous donne régulièrement des nouvelles de partout dans le monde et c'est toujours très intéressant, même si les nouvelles ne sont pas toujours bonnes. En Afghanistan, une nouvelle loi a été adoptée par le ministère de la propagation de la vertu et de la prévention du vice. Ça dit long sur leur projet. Cette nouvelle loi prévoit des avertissements officiels, voire des arrestations pour les femmes qui parlent ou montrent leur visage dans des lieux publics. Ça serait adopté en France, toutes les femmes seraient enfermées. L'article 13 établit que les femmes doivent se couvrir le corps et le visage d'un voile à tout moment en public pour éviter la tentation. Mais enfin, messieurs, la tentation, on y résiste si on est fort comme vous voulez nous le faire croire. Qu'est-ce que c'est que ça? Elles ne peuvent pas chanter, réciter ou lire à haute voix en public, car la voix est considérée comme intime. Et certes, elle ne nous appartient qu'à nous, et en plus, aucune voix ne se ressemble. Mais chacune a la sienne, chacun a la sienne. Dans ce projet de loi, il est également interdit aux femmes de regarder ou de se réunir avec des hommes qui ne sont pas des parents ou des maris. Elles n'ont pas le droit d'utiliser les transports en commun toutes seules. Depuis que les talibans ont pris le contrôle du pays il y a 3 ans, ils ont publié plus de 70 décrets qui privent les femmes et les filles afghanes de leurs droits fondamentaux, comme le droit d'aller à l'école, de travailler ou de voyager sans un tuteur masculin. Cependant, des femmes afghanes diffusent des vidéos dans lesquelles elles chantent, défiant ainsi cette interdiction des talibans de parler en public. Bon courage à elles. Vraiment, elles sont tellement courageuses. Une meilleure nouvelle maintenant, petite. Mais quand même, pour les femmes concernées, c'est important. L'État mexicain de Puebla a mis à jour son code pénal pour autoriser l'IVG jusqu'à 12 semaines de grossesse, par 29 fois contre 7 au Congrès de l'État. Puebla est ainsi devenu le 14e État mexicain à légaliser ou à décriminaliser l'avortement. C'est la dernière victoire en cours de la vague verte, la Ola Verde, de lutte pour les droits à l'avortement qui a déferlé sur le pays depuis que la Cour suprême a déclaré inconstitutionnelle la criminalisation de l'avortement en 2021, confirmée en 2023. Du coup, ça me donne l'occasion de parler d'une prochaine manifestation. À vos agendas, notez la date du 28 septembre, 14h30. À Paris, le rendez-vous, il y aura d'autres manifestations partout en ville. Si vous allez sur le site de Avortement, les femmes décident, vous trouverez la cartographie des manifestations dans les jours prochains. En effet, le 28 septembre, c'est la Journée internationale pour le droit à l'avortement. Ce jour-là, nous afficherons haut et fort notre solidarité avec toutes les femmes du monde et en particulier avec celles des pays où est interdit totalement ou partiellement le droit à l'avortement. Par exemple, en Argentine, où le président Milei cherche à revenir sur ce droit acquis de haute lutte en 2020. C'est donc récent. Partout où l'extrême droite arrive au pouvoir, elle n'a de cesse de vouloir restreindre, voire interdire les droits des femmes. C'est le cas, par exemple, en Italie ou en Hongrie, ou en Pologne, où ce droit a été tellement restreint que le nouveau gouvernement issu des dernières élections a bien du mal à rétablir un droit plus important pour les femmes polonaises. En France, parmi les députés du Rassemblement national, il y a de farouches militants anti-avortement. Le gouvernement nouveau doit pénaliser les activistes anti-IVG qui attaquent notamment les locaux du planning familial, propagent de fausses informations sur le net, dénigrent les séances d'éducation à la vie affective et sexuelle à l'école et essayent de dissuader les femmes d'avorter. Il faudrait que le gouvernement ait le courage de dissoudre ces associations anti-IVG. Nous manifesterons donc le 28 septembre 2024 pour la défense et l'application du droit à l'avortement partout dans le monde.
از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا خاک این گندم تو خیابونه خوشه ی خشم من و تو تشنه ی بارونه حق ما کم نیست زانوی غم نیست قلب ما که دور از هم نیست دنیای تاره این یه آغازه پنجره تا رویا بازه از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم
Une chanson pour toutes les femmes opprimées dans le monde, pour les Afghanes dont Elisabeth a parlé juste avant, pour les Iraniennes, et là c'était, et puis pour toutes les autres encore, et là c'était Il canto per Masha, une chanson en langue persane, Bella Ciao. On a parlé beaucoup, beaucoup, et il faut encore en parler, de cette toute jeune femme qui a été assassinée parce que son voile était mal mis.
Nous poursuivons donc Remue Ménage Féministe pour ce mardi 10 septembre 2024 et nous voulons évoquer maintenant la situation d'une militante bien connue de nos auditrices et nos auditeurs, Pinar Selek, une amie, même si on ne la voit pas souvent. Pinar Selek est née en 1971 à Istanbul, c'est la fille d'un avocat, Alp Selek, âgée aujourd'hui de 93 ans, et la petite-fille de Aki Selek, l'un des fondateurs du Parti des Travailleurs de Turquie. Elle est aussi la sœur de Seydo Selek, qui est avocate aussi et qui assure la défense de sa sœur. Le 28 juin dernier, la 15e chambre de la cour de Kagliyanan évoquait à nouveau la situation de Pinar Selek et une délégation française de l'association Défense sans frontières Avocats solidaires s'est rendue sur place. Cette délégation était composée de 4 personnes. Un bâtonnier, celui du barreau des Hauts-de-Seine, Pierre-Anne Laugerie. 2 membres du barreau de Lyon, Katie-Anne Tambourini et une autre personne dont on n'a pas le nom. Françoise Cotta, du barreau de Paris, qui représentait l'association Défense sans frontières, Avocats solidaires et l'association Roya Citoyenne. Pour rappel, Roya, c'est une petite ville à la frontière franco-italienne où un militant, Cédric Edoux, a été poursuivi pour aide à la migration. Et dernier avocat présent pour Pinar Selek, c'est son avocat de France, Martin Pradel, du barreau de Paris. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à un procès qui dure depuis maintenant pas loin de 30 ans ? En 1998, une explosion a lieu au marché des épices d'Istanbul. Le bilan est lourd, 4 morts et 121 blessés. Qualifié d'attentat terroriste par l'État turc, cet attentat sera attribué au groupe kurde PKK. En raison de ses travaux sur les populations kurdes, Pinar Selek est alors accusé d'avoir participé à cet attentat et il est accusé, elle aussi, de terrorisme. Il sera ensuite démontré par différents experts nommés dans cette affaire que cette explosion était due à l'explosion accidentelle d'une bouteille de gaz. Néanmoins, Pinar Selek sera poursuivi, jugé et condamné 4 fois. À chaque fois, à chaque condamnation, le jugement a été infirmé par la cour d'appel. Mais à chaque fois, la cour de cassation saisie par le parquet a cassé les arrêts de la cour d'appel. Il convient de préciser que contrairement à la procédure française, La Cour de cassation en Turquie est un troisième degré de jugement des faits, comme du droit. Le 8 juin 2006, premier acquittement par la Cour d'appel. 23 mai 2008, deuxième acquittement. 9 février 2011, la Cour d'appel prononce un troisième acquittement, mais son arrêt est à nouveau cassé en 2013 par la Cour de cassation, qui, en outre, prononce une condamnation à la prison à perpétuité pour Pinar Selek. Sur recours de Pinar, cette condamnation à perpétuité sera annulée le 11 juin 2014 par la 9e chambre de la Cour de cassation. Et le 9 décembre 2014, un nouvel arrêt d'acquittement sera prononcé. C'est ainsi que depuis 26 ans, Pinar Selek a été jugé 4 fois, acquitté 4 fois pour la même affaire, accusé d'avoir participé à ce prétendu attentat qui n'était en réalité qu'une explosion accidentelle. Réfugiée en France depuis 2011, elle y a obtenu l'asile politique en 2013. Depuis, elle est universitaire, d'abord à Lyon et actuellement à Nice. Le 6 janvier 2023, dans le cadre du 5e procès mis en œuvre, toujours pour le même motif, un mandat d'arrêt international avec demande d'arrestation immédiate a été lancé à son encontre. C'est ce 5e procès qui débute le 31 mars 2023 à Istanbul et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience au 28 juin 2024. Et donc, c'est de cette audience dont parle Françoise Cotta pour nous faire connaître ce qui s'y est passé. Afin d'éviter tout risque de tension, l'équipe de défense de Pinar Selek avait demandé qu'aucune manifestation de soutien ne soit organisée, ni aucune banderole déployée, contrairement à la fois précédente. La délégation est entrée au tribunal discrètement pour se retrouver dans la salle d'audience. J'ai oublié de mentionner que cette délégation ne comprenait pas que ses membres français, qu'il y avait aussi des membres de plusieurs pays européens. Dès notre arrivée, il est annoncé que les avocats turcs et français rentreraient en priorité. Et le président demande aux avocats français qu'ils nomment les avocats qui n'appartiennent pas à l'État turc de s'installer au premier rang du public et non sur les bancs de la défense, comme cela s'était fait lors des précédentes audiences. Il rappelle que lors des dernières audiences, il avait donné la parole aux avocats français, mais que cela est terminé car il a décidé de respecter désormais la procédure. Il précise que les avocats français pourront néanmoins verser des documents qui seront pris en compte, et il ajoute que les avocats français ne doivent pas perdre leur motivation. C'est une citation. Ainsi, Françoise Cotta et Martin Pradel, tous deux officiellement désignés par Pinar Selek pour la représenter, n'ont donc pas pu prendre la parole pour remplir leur mission. Ce changement de comportement du président doit être relevé. Dans un premier temps, le président rappelle que Pinar Selek est à l'étranger en insistant sur la nécessité absolue pour lui au regard de la gravité des faits reprochés, qu'elle soit présente à l'audience de jugement et qu'elle s'exprime elle-même. Il constate qu'il n'a aucune information concernant le nouveau mandat d'arrêt lancé contre elle. Il avait déjà exprimé cette demande à l'issue de la précédente audience avant de renvoyer à l'audience du 2 juin 2024. La défense prend la parole pour évoquer un nouvel élément du dossier de grande importance. Le parquet antiterroriste turc a versé au dossier, peu de temps avant l'audience, un document selon lequel Pinar Selek se livrerait actuellement, depuis la France, à des activités terroristes. De quoi s'agit-il ? En fait, le 12 avril 2024, Pinar Selek a participé à Nice, ville dans laquelle elle vit et elle travaille, à un événement dénommé le Printemps des Migrations, et ce, à la demande de l'université où elle enseigne, à la demande de son employeur, donc. C'est donc en qualité d'enseignante de l'Université de Nice qu'elle a participé, en qualité de modératrice, à un débat consacré aux femmes turques en exil. C'est cela que le parquet antiterroriste qualifie d'activité terroriste. Je comprends, pour ma part, que le parquet antiterroriste turc considère qu'être solidaire des femmes en exil est du terrorisme. Je ne vois pas comment l'interpréter autrement. L'avocat de Pinar Selek insiste sur le fait que depuis le début du procès, de fausses preuves sont versées au débat la veille des audiences pour influencer le tribunal. Ce procédé est qualifié de honteux et l'avocat dénonce le procédé qui consiste à sortir de son contexte réel la participation de Pinar Selek à ce colloque organisé par l'université. Le parquet se sert de ce document pour vous demander l'extradition de Pinar Selek, alors que seul le ministère de la Justice est compétent en la matière. En plus, ils ne respectent pas les lois de leur propre pays. Enfin, l'avocat de Pinar rappelle que les différentes cours pénales qui ont eu à connaître de cette affaire ont toutes acquitté Pinar Selek, tout comme la Cour de cassation. 4 acquittements au total, en raison de fausses accusations. Mais à chaque fois, il y a eu des interventions extérieures. Et le document au sujet de l'Université de Nice et du printemps des migrations est de même nature. Le président lui fait remarquer que son interlocuteur est le ministère de la Justice qui a remis le document au procureur. L'avocat remet une note qui regroupe toutes les explications sur cet événement de Nice. Le président déclare que ce document n'intéresse pas la Cour, qui souhaite impérativement entendre Pinar Selek en personne, mais apparemment qu'une demande d'extradition n'a été déposée à ce jour. Le procureur prend rapidement la parole pour dire qu'à son avis, de fortes preuves existent et pour demander que les poursuites se continuent contre Pinar Selek. Et il renvoie l'affaire au 5 février 2025. À la sortie de cette audience, nous sommes chaleureusement remerciés par nos confrères turcs qui espèrent notre présence à cette prochaine audience. En conclusion, il apparaît nécessaire d'organiser une mission plus nombreuse pour la prochaine audience à laquelle nous sommes attendus. Selon nos confrères turcs, la présence d'avocats internationaux a un impact sur le tribunal. Apparemment, il n'y a aujourd'hui aucune volonté réelle de condamner Pinar, mais il n'y a pas non plus de volonté de l'acquitter. On nous dit qu'au bout de 30 ans, les poursuivres doivent être abandonnés. Est-ce la solution vers laquelle tend ce procès interminable? On le saura sans doute, peut-être, en janvier 2025. Bon courage, Pinar.
Depuis qu'ils vous ont mis dedans, on n'a pas vu le temps passer. 20 ans déjà, mon fils est né, et ma fille, 18 printemps. De ces années, qu'avons-nous fait? Que pouvons-nous bien vous en dire? Nous avons vu des murs tomber, nous en avons laissé construire. Depuis qu'ils vous ont enfermé, nous n'avons pas gagné grand-chose. Pour l'avenir des justes causes qui toujours nous ont rassemblés, nous étions si sûrs de la voie à l'horizon comme un soleil. La révolution, notre espoir, que rien ne serait plus pareil. Depuis qu'ils vous gardent reclus, ils ont voulu qu'on vous oublie, qu'on vous isole ou qu'on vous tue par le silence ou la folie. Et ceux qui hurlent avec les loups vous ont condamné à leur tour, et leur lame sur votre cou, c'est la mort lente au fil des jours. Depuis qu'on vous a mis au banc de ce qui fait aimer la vie, jusqu'à vous enterrer vivant pour mieux jouir de votre agonie, certains vous clouent au pilori, les belles âmes, les repentis qui jadis criaient haut et fort, le pouvoir est au bout du fusil. Régis, Joël et Nathalie, Jean-Marc et Georges, d'autres aussi, humiliés, battus ou malades, vous avez tenu camarades. Depuis 20 ans, ces lourdes chaînes n'auront pas eu raison de vous, et bientôt, au bout de vos peines, toujours rebelles, toujours debout, vous sortirez de leur mouroir. C'est votre droit, et notre espoir.
Toujours rebelle, toujours debout, comme Pinar Selek et comme bien d'autres encore, comme ces femmes afghanes, comme ces femmes iraniennes, comme toutes ces femmes, les Argentines, les Polonaises. Et c'était Dominique Grange qui chantait cette chanson il y a déjà quelques décennies. Radio Libertaire 89.4, vous êtes à l'écoute de l'émission Remue Ménage Féministe.
Et au cours de cet été, j'ai eu l'opportunité de découvrir un livre très beau, très intéressant, « Les passeurs de livres de Daraya », une bibliothèque secrète en Syrie, un livre qui a été écrit par Delphine Minoui, qui est grand reporter au Figaro et spécialiste du Moyen-Orient. Voilà ce que nous dit la quatrième de couverture. De 2012 à 2016, la banlieue rebelle de Daraya a subi un siège implacable imposé par Damas. 4 années de descente aux enfers, rythmées par les bombardements aux barils d'explosifs, les attaques aux gaz chimiques, la soumission par la faim. Face à la violence du régime de Bachar el-Assad, une 40aine de jeunes révolutionnaires syriens a fait le pari insolite d'exhumer des milliers d'ouvrages ensevelis sous les ruines pour les rassembler dans une bibliothèque clandestine calfeutré dans un sous-sol de la ville. Leur résistance par les livres est une allégorie, celle du refus absolu de toute forme de domination politique ou religieuse. Elle incarne cette troisième voie entre Damas et Daesh, née des manifestations pacifiques du début du soulèvement anti-Assad de 2011, que la guerre menace aujourd'hui d'étouffer. Ce récit, fruit d'une correspondance menée par Skype entre une journaliste française et ses activistes insoumis, est un hymne à la liberté individuelle, à la tolérance et au pouvoir de la littérature. Je vais vous lire maintenant quelques extraits particulièrement intéressants. La journaliste, donc Delphine Minoui, est en contact avec particulièrement 2 hommes. D'une part, Omar. Quand elle échange avec Omar, elle lui demande « Te considères-tu comme un djihadiste ?» Elle dit « Je fais exprès de le provoquer ». Non moins par curiosité que par souci d'objectivité. Par besoin aussi de préciser les étiquettes face aux accusations répétées de Damas. À mes questions répond un long silence. Puis il explique posément. Si j'ai choisi de combattre le régime, c'est pour défendre ma terre, mon pays, mon droit à la liberté. Se battre n'était pas un choix, c'était une nécessité, au nom du respect de la pluralité. Quand vos amis tombent sous vos yeux pour avoir brandi un morceau de carton réclamant le changement, que reste-t-il, sinon l'envie de protéger les autres manifestants? C'est comme ça, malheureusement, que tout a commencé. Et puis, sous les bombes du régime, la spirale de la violence s'est enclenchée. Il continue. Quant au djihad, à ceux qui cherchent à ternir notre image en nous faisant passer pour des fous de Dieu, ma réponse est simple. Nous sommes musulmans. C'est ainsi, c'est notre culture. Mais nous refutons toute usurpation de la religion, que ce soit par le front Al-Nosra, la filiale syrienne d'Al-Qaïda, ou par Daesh. Ces gens-là ne représentent pas nos idées, ils les déforment. N'oubliez pas que la révolte a commencé par des appels à la justice et au respect des droits de l'homme, pas à l'islam. Je suis curieuse de savoir à quel moment exactement les livres ont commencé à avoir une importance capitale dans sa vie. C'est quand j'ai compris que la guerre pouvait durer des années, quand j'ai réalisé que nous ne pouvions compter que sur nous-mêmes. Les livres ont rapidement eu un impact crucial. Ils m'ont aidé à ne pas me perdre. Et parmi toutes ces lectures, as-tu un livre préféré ? Al-Kawaka, La coquille. C'est un livre glaçant, terrifiant. L'écrivain syrien de confession chrétienne, Mustafa Khalife, l'a rédigé après 12 années de détention dans la prison du désert, la redoutable prison de Palmyre. Sous Assad, père et fils, l'ouvrage est interdit. La censure est telle qu'on dispose de peu d'informations sur la brutalité réelle du régime. La plupart d'entre nous en avons réellement pris connaissance au début de la révolution, quand les forces pro-Assad ont commencé à nous malmener. Aujourd'hui, il est important d'ouvrir les yeux sur notre passé. Dans les moments de doute et de désespoir, cela nous rappelle aussi pourquoi nous nous battons. Malgré la cruauté de la coquille, Omar a noué un lien particulier avec ce livre et lui ouvre une porte, celle de l'histoire occultée de son pays. La lecture contre les éradicateurs de la mémoire, les raïs de la pensée unique. J'apprendrai plus tard que le livre autrefois interdit est l'un des plus lus à Daraya. À un moment de l'échange entre Delphine et Omar, Omar lit un extrait. Je déroule le passé, je rêve du futur. C'est devenu une habitude, les rêves éveillés. Cela me procure beaucoup de plaisir et c'est ma drogue. Je construis le rêve petit à petit. Je pose tous les détails, je les dessine, je corrige. Pendant des heures, assis ou allongé, je suis plongé là-dedans. J'oublie la réalité où je me trouve. Je me transporte dans une réalité où tout est beau et facile. Je tourne quelques pages. Delphine échange avec Ahmad. Pour Ahmad, le plus grand réconfort s'appelle Mahmoud Darwish. Ce poète palestinien décédé en 2008 et adulé dans tout le monde arabe, Ahmad en connaît les textes sur le siège de Beyrouth en 82 ou celui de Ramallah, texte rédigé en 2002. Avant la Révolution, ces livres nous étaient plusieurs fois tombés des mains, trop éloignés de nos considérations de l'époque. Depuis que le siège s'est consolidé, ces deux chefs-d'œuvre littéraires ont souvent pris une épaisseur particulière. Ahmad en a mémorisé des passages entiers. Ces poèmes, je les écoute comme on écoute une voix secrète qui murmure ce qu'on n'arrive pas à exprimer, comme on chante ce qu'on est incapable de chanter. Je m'y retrouve dans chaque mot, dans chaque ligne. Je m'identifie à l'expérience vécue, l'attente sous les obus, le temps qui devient espace, les martyrs qu'on n'arrive pas à oublier. J'écoute les vers et je me dis c'est exactement ce que je ressens. Et voilà quelques vers. Ici, sur les pentes des collines, face au couchant et à la béance du temps, vers des vergers à l'ombre coupée, tels les prisonniers, tels les chômeurs, nous cultivons l'espoir. C'est donc un poème de Mahmoud Darwish, extrait du livre « État de siège », traduit par Elias Sambar et paru aux éditions Actes Sud en 2004. Et enfin, pour terminer sur ce livre, il est bien plus riche que ce que je vous partage, mais je vais vous lire encore quelques extraits. Ayad a réussi à partir de cet enfer de Daraya comme tous les autres. Plus personne n'habite à Daraya. Alors que c'était une ville qui devait faire 40 000 habitants, pendant le siège, ils étaient à 8 000, 7 000 au moment de la dernière fuite. Il dit « À Daraya, le régime s'est évertué à effacer toute trace positive et intellectuelle de la révolution. Pour Assad, un homme cultivé et éduqué est un homme dangereux parce qu'il représente un défi à l'ordre établi. » Mais j'ai l'impression de ressortir grandi de cette tragédie. Jamais je ne me suis senti aussi libre, porteur d'une mémoire que personne ne pourra m'arracher. Et puis, pour terminer sur ce livre, quelques paroles de femmes qui écrivent au président Hollande en avril, je pense 2015. « Nous sommes les femmes de la ville assiégée de Daraya en Syrie, et nous vous adressons un appel urgent pour sauver notre ville. La tragédie syrienne continue avec ses scènes de bombardement à répétition, de destruction et son implacable siège. Notre ville a été le témoin du pire pendant 3 années consécutives. Les civils ont dû payer le prix fort à cause de la politique de la famine. Notre ville souffre d'une pénurie générale, du plus simple produit de base comme le sel de table, au plus complexe tel que les moyens de communication avec le monde extérieur. La situation s'est largement aggravée depuis que Daraya a été coupée de la ville de Mohadiamia. La ville est complètement verrouillée, même pour les civils qui voudraient tenter de suivre. Avec la cessation récente des hostilités, le calme est revenu. Pourtant, il n'y a guère de vie en dehors des abris parce que tous les bâtiments ont été détruits. Il n'y a pas de nourriture, il y a de nombreux cas de malnutrition et nous nous contentons de soupes faites d'épices pour tenter de nous rassasier. Certaines signataires de cette lettre n'ont pas mangé depuis 2 jours, parfois plus. Il n'y a plus de lait en poudre pour les enfants. Les femmes ne peuvent plus allaiter à cause de la malnutrition. Nous, les femmes de Daraya, demandons une levée immédiate du siège de tous les côtés de la ville, l'ouverture des routes et l'entrée des produits de première nécessité, de la nourriture aux médicaments, en passant par l'eau potable, des vêtements et des chaussures et des produits d'entretien. Nous supplions les Nations Unies et toutes les organisations humanitaires d'entrer immédiatement dans la ville pour venir au plus vite en aide à tous ceux qui sont touchés. Nous implorons les journalistes d'écrire sur Daraya et d'attirer l'attention sur le sort de notre ville avant que la famine ne se généralise. Nous sommes à 2 doigts d'assister à des décès causés par la faim. Les nourrissons et les personnes âgées seront les premiers à succomber. Nous vous en supplions, faites le nécessaire avant qu'il ne soit trop tard. Quelques noms de ces signataires: Samsan, Khadija, Aziza, Mouna, Amani, Malak, Joumana, Gada, Kouloud et bien d'autres. Enfilade de noms écrits à l'encre de sang comme un ultime SOS lancé à la face du monde. Les passeurs de livres de Daraya, une bibliothèque secrète en Syrie, livre écrit par Delphine Minoui et qui vous relate donc la situation dans cette ville de la banlieue de Damas, je crois, et qui ont subi 5 ans de siège, et pendant lesquels c'est une 40aine de jeunes ont réussi à mettre en place une bibliothèque clandestine en récupérant les livres dans les maisons explosées. Ils mettaient à chaque fois les noms des propriétaires des maisons ou l'adresse des maisons sur la page de couverture, de la page intérieure du livre, pour qu'éventuellement ils soient retrouvés après la guerre. Ils ont fait fonctionner cette bibliothèque malgré les bombes, malgré les déménagements incessants, malgré tous les problèmes. Et elle a réussi à tenir grâce à une vraie solidarité et un vrai besoin de lire. Et ils expliquent qu'ils avaient envie de lire de tout, de la théologie aux mathématiques, aux romans ou aux polars, de la poésie, et que ça les a aidés à tenir et à rester en vie, sauf s'ils tombaient sous les bombes, comme Omar, dont j'ai parlé, qui est mort avant la fin, avant l'exil total de la ville. Voilà, un beau courage, un beau clin d'œil aussi à la culture, à la diversité, à la pluralité et à l'intelligence. Merci Omar, Assad et tous les autres.
بالزنبق امتلأ الهواء كأن موسيقى ستصدح كل شيء يصطفي معنى ويرسل فائض المعنى إلي أنا المعافى الآن سيد فرصتي في الحب لا أنسى ولا أتذكر الماضي لأني الآن أولد هكذا من كل شيء أصنع الماضي إذا احتاج الهواء إلى سلالته فأفسده غبار. ولدت دون صعوبة كبنات آوى كالسمند كالغراب، ولم أهنئ والدي بصحتي وسلامتي. والآن أقفز صاحيا وأرى وأسمع كل هذا الزنبق السحري. بالزنبق امتلأ الهواء كأن موسيقى ستصنع. أأنا هنالك أم هنا؟ في كل أنا أنت المخاطر. ليس منفى أن أكونك، ليس منفى أن تكون أنا يا آية، وليس منفى أن يكون البحر والصحراء أغنية المسافر للمسافر. لن أعود كما ذهبت، ولن أعود ولن أعود. هنالك موتى ومستوطنات، وموتى وبلدوزرات، وموتى ومستشفيات، وموتى وشاشات رادار تنصب موتى يعيشون بعد الممات، وموتى يربون وحش الحضارات. موتى موتى يموت، موتى يعيش، موتى يعود، موتى يموت
نسيب المتهيئ والمرالي باكا أمس وما رجي البعيد.
نطل على أرضنا من حصى أرض الخطوبة، من كلام النجوم، من هواء البحيرات، من زغب الكرة الأشهر، من زهرة القمر كبرة القوم. من كل شيء يحاصركم أيها الأخرى، آخر خسارة لا غرام. وسقط يا وطن فالتقطها واضرب عدوك، وسقطت قربك فالتقطني واضرب عدوك بي. انت الان قر حاصر حصارك بالجنون، حاصر حصارك بالجنون وبالجنون وبالجنون. الذهب الذي تحبه
Et vous venez d'entendre et d'écouter la voix de Mahmoud Darwish, accompagnée du trio Joubran. Et nous avons déjà parlé de Mahmoud Darwish dans l'émission Remue-Ménage féministe, et c'était le 23 avril dernier. Nous étions avec Monique Chéreau, Chahabi, excusez-moi, qui nous parlait d'un autre livre. Elisabeth vous a parlé d'un livre, j'en bafouille, sur la Syrie. Là, c'est un livre, Paroles pour une paix en terre de Palestine. C'est un recueil, donc 40 contributrices et contributeurs. Et dans ce livre, dès le début de l'ouvrage, il y a un poème de Mahmoud Darwish. Et ça me fait faire le lien avec ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Cisjordanie. Et pour ce lien, eh bien, nous allons écouter Michel Buller en Palestine.
À côté de son âne, sur un sentier de terre, un très vieil homme marche, pieds nus dans ses sandales. Et c'est en Palestine, et ça n'est pas hier, non, c'est ce matin même, dans les collines pâles. Regarde bien, dit-il, c'est une route qui passe à deux pas larges et lisses, et s'en va où je vais. Elle n'est pas pour moi, ni pour ceux de ma race. À des chemins d'exil, nous sommes condamnés. À des chemins pierreux, par la loi des soldats, qui font une prison de mon pauvre pays, qui bâtissent des murs et ne me laissent pas aller jusqu'à mon champ, tirer l'eau de mon puits. Regarde bien, dit-il, dans l'or de la vallée, le père de mon père et son père avant lui, patient pareillement, élevait l'olivier. J'ai fait ce qu'il faisait, mon fils m'aurait suivi, mais bardé de fusils, des flammes plein les yeux, des hommes sont venus. Implacable, hurlant, cette terre désormais nous appartient, va-t'en. Me voici l'étranger, le malvenu, le gueux. Regarde bien, partout monte leur forteresse, où que le regard porte, blanche sur le ciel bleu, le fou qui s'en approche, il le tue, il le blesse. À croire que le soleil et le vent sont à eux. Sur le chemin montant, le vieil homme s'arrête. Ils ont les bulldozers, les blindés, les canons. Je n'avais que ma sueur, ma bête et ma charrette, et mes seules mains pour défendre ma maison. Ils ont le feu du ciel, les bombes et le vacarme, contre l'acier brûlant, que peut un cœur qui bat. Et je n'ai plus de toi, et je n'ai plus de larmes, mais suis encore debout. Et je resterai là. Le vieux ajoute encore, et c'est aujourd'hui même, avant de s'en aller, sans plus se retourner, avant de disparaître, au tournant du sentier, quand tu retrouveras au loin les gens qui t'aiment, offre-leur de ma part des paroles de paix.
Palestine, Michel Buller. Et c'est dans l'émission Remue Ménage Féministe sur Radio Libertaire 89.4.
Et nous sommes donc le 10 septembre 2024. Et au cours de l'été 2024, vous n'avez sans doute pas échappé à l'événement qui a beaucoup marqué l'actualité, les médias et les communications officielles, les Jeux Olympiques qui se sont déroulés en France. À cette occasion, au cours de la cérémonie d'ouverture, le vendredi 26 juillet à Paris, une partie de l'événement a mis en lumière 10 femmes qui ont joué un rôle déterminant dans l'histoire de France. Ces héroïnes ont été choisies pour leur contribution à des domaines aussi variés que la politique ou la littérature, le sport ou les droits humains. Elles ont été symboliquement représentées par des statues érigées près de l'Assemblée nationale. Elles étaient en plus dorées, donc on ne pouvait pas échapper de les voir. Cet hommage prend une dimension particulière dans un lieu où, historiquement, les statues rendent principalement hommage à des figures masculines. Cet acte de reconnaissance intervient dans un contexte de sous-représentation des femmes. La capitale française compte environ 260 statues d'hommes et seulement une quarantaine statues de femmes. Je vais donc vous lire un article qui a été rédigé par des membres d'une association de formation qui s'appelle EXEA, E2XEA.net. Vous pouvez retrouver tout l'article. Et donc, elles font la liste des 10 femmes mises en valeur pour les Jeux Olympiques 2024. Olympe de Gouges, née en 1748, est une dramaturge et une activiste politique française. Elle a vécu pendant la période tumultueuse de la Révolution française de 1789 et elle devient célèbre par son ardent plaidoyer en faveur des droits des femmes et des esclaves. Parce qu'elle a non seulement écrit « Le droit des femmes et des citoyennes », de la femme et de la citoyenne, mais elle a aussi défendu l'abolition de l'esclavage. Sa vie est marquée par un engagement profond pour l'égalité, malgré les contraintes d'une société largement patriarcale. Son livre « La déclaration des droits de la femme et de la citoyenne » est un document de la première expression de la revendication de droits civils et politiques pour les femmes, mettant en avant l'idée révolutionnaire que les femmes, tout comme les hommes, devraient jouir de la liberté, de l'égalité et des droits de la citoyenneté. Avec ce que je vous ai lu tout à l'heure sur ce qui se passe, par exemple, en Afghanistan, mais partout dans le monde, on voit que cette déclaration a encore de beaux jours devant elle pour être vraiment appliquée. Alice Milla, née en 1884, est une athlète et dirigeante sportive française, une pionnière du sport féminin. Elle se bat pour l'inclusion des femmes dans les compétitions sportives internationales, une bataille qu'elle mène avec détermination à une époque où le sport est principalement réservé aux hommes. En 1922, Alice Milla organise les premiers Jeux mondiaux féminins à Paris, une compétition internationale exclusivement réservée aux femmes. Ce geste audacieux met en lumière le potentiel des athlètes féminines et pousse le Comité international olympique à inclure progressivement des épreuves féminines dans les Jeux olympiques, marquant une étape cruciale dans l'histoire du sport. Merci Alice de nous avoir fait courir, sauter, etc. Gisèle Halimi est née en 1927 en Tunisie. C'est une avocate, militante féministe et figure politique influente. Elle consacre sa vie à défendre les droits des femmes, notamment en matière de droit à l'avortement et de lutte contre les violences sexuelles. Elle se distingue également par son engagement contre le colonialisme, spécialement en défendant des militants algériens pendant la guerre d'indépendance de l'Algérie. Notons qu'elle a défendu aussi Madame Boupacha, qui avait été torturée par l'armée française. Simone de Beauvoir, née en 1908, est une philosophe, une écrivaine, une militante féministe française. Son œuvre majeure, Le deuxième sexe, publiée en 1949, est une analyse approfondie de la condition des femmes et un texte fondateur du féminisme moderne. On sait aussi dans son histoire qu'elle a subi le patriarcat, puisque quand elle passe l'agrégation, elle est reçue, et certains membres du jury ont dit après qu'elle aurait dû être reçue première, mais comme c'était une femme, il a fallu mettre un homme en premier devant elle. Je ne sais plus s'il s'agit de Sartre ou d'un autre, peu importe, on va oublier le nom de ce voleur et on va dire que c'est Beauvoir, la première agrégée, l'année où elle est agrégée. Elle joue un rôle clé dans le mouvement féministe du XXe siècle en posant des bases théoriques pour la lutte contre les inégalités. Son travail influence des générations de militantes et continue de résonner aujourd'hui dans les débats sur l'égalité des sexes et partout dans le monde. Il est bon de savoir que, par exemple, le deuxième sexe a été beaucoup plus étudié aux États-Unis qu'en France après sa parution. Paulette Nardal est née en 1896 en Martinique. C'est une intellectuelle, journaliste et une écrivaine. Elle est l'une des premières femmes noires à étudier à la Sorbonne et joue un rôle central dans la naissance du mouvement de la négritude aux côtés de figures comme Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor. On parle évidemment beaucoup moins d'elle. Elle utilise sa plume pour promouvoir les idées de la négriture et pour défendre les droits des femmes, et en particulier les droits des femmes issues des colonies. Ses écrits et son engagement ouvrent la voie à une prise de conscience globale des questions de race et de genre. Jeanne Barret, née en 1740, est une botaniste française. Elle se déguise en homme pour participer à l'exposition de Bougainville autour du monde, devenant ainsi la première femme à accomplir ce tour. Durant son voyage, elle collecte et documente de nombreuses espèces végétales inconnues en Europe, contribuant ainsi de manière significative aux sciences naturelles de son époque. Louise Michel, née en 1830, est une institutrice, écrivaine et militante anarchiste. Elle joue un rôle actif dans la Commune de Paris de 1871, l'un des événements révolutionnaires les plus importants de l'histoire française. C'est une figure emblématique de l'anarchisme et du féminisme, connue pour ses combats pour l'égalité sociale et la justice, et moins connue, mais pour un autre aspect qui rejoint Jeanne Barrès, c'est qu'elle a rapporté de son exil en Kanaky, Nouvelle-Calédonie, des dessins et des descriptions de végétaux et d'animaux inconnus en Europe, mais présents en Nouvelle-Calédonie. Elle a aussi appris à lire et à écrire aux Kanaks qu'elle a rencontrés. Elle est une des rares communards à avoir été solidaire des Kanaks qui se révoltaient contre la colonisation française. Christine de Pizan, c'est la plus ancienne de toutes les femmes citées dans cette liste. Elle est née en 1364. C'est une poétesse et une philosophe française, considérée comme l'une des premières femmes de lettres en Europe. Elle écrit sur une variété de sujets, de la politique à la morale, en passant par la défense des femmes. Le livre « La cité des dames » célèbre les contributions des femmes à la société et conteste déjà les stéréotypes misogynes de son époque. Son travail est une pierre angulaire dans l'histoire de la pensée féministe et ce livre, « La cité des dames », est fréquemment réédité. Un peu de cinéma avec Alice Guy, née en 1873, réalisatrice, scénariste et productrice française. Elle est l'une des premières femmes à réaliser des films et même la première à réaliser un film de fiction, car les premiers films réalisés étaient des documentaires. Ceux par les frères Lumière, avec par exemple Le Voyage dans la Lune ou l'accident de la gare, ce n'est pas de la fiction, c'est de la réalité. Elle réalise en 1896 La Fée aux Choux, c'est le premier film narratif de l'histoire du cinéma. C'est une des premières pionnières dans le cinéma qui a été oubliée jusqu'à être retrouvée il y a quelques années. Et aujourd'hui, un prix Alice Guy est remis chaque année aux femmes qui réalisent des films. Et puis, dixième de cette liste, qui mériterait d'être beaucoup plus longue, évidemment, mais bon, c'est les 10 femmes qui ont été mises en valeur au moment des JO 2024, Simone Veil, née en 1927, magistrate et femme politique française. Elle est surtout connue pour son rôle dans la légalisation de l'avortement en France en tant que ministre de la Santé, avec la loi qui porte son nom et qui date de 1975. Elle a également été une figure clé dans la construction de l'Europe, puisqu'elle a été présidente du Parlement européen. Son engagement en faveur des droits humains et de la justice sociale fait d'elle une figure respectée et influente dans la politique internationale. Même si elle n'est pas proche de nos idées, nous respectons quand même son combat pour l'avortement, puisque nous avons réussi à avoir une loi qui n'a cessé depuis de s'améliorer, même si elle reste encore mal appliquée en France. Et puis, pour terminer cette liste des 10 femmes en or des JO, je vais en ajouter une 11e, malheureusement qui ne verra plus les JO, qui ne courra plus. C'est l'athlète ougandaise Rebecca Cheptegei, qui a été brûlée par son compagnon et qui a succombé à ses blessures. La Fédération ougandaise d'athlétisme s'est dit profondément attristée par le décès de son athlète, victime tragique de violences conjugales. Nous prononçons ton nom au pays des vivants, repose en paix. Oui, c'est un féminicide. Nous devons mettre fin au féminicide, a réagi Nedjri Migvi, cofondatrice de l'association Ouzi Kimié, ne reste pas silencieuse en Swahili, association qui vient en aide aux victimes de violences sexuelles et sexistes en Ouganda. Selon un rapport de police, le suspect s'est introduit dans la propriété de Rebecca Cheptegei le dimanche, je ne sais pas exactement la date, mais c'était il y a 15 jours, 3 semaines, alors qu'elle se trouvait absente. Nous espérons qu'aux prochains Jeux Olympiques 2028 à Los Angeles, une statue la représente et représente toutes les femmes victimes de féminicide.
Petit problème technique, Donc, nous ne pouvons pas passer la chanson que j'avais choisie, à savoir Ciudad de Juárez, par Frasiak, que je vais aller la rechercher. Et donc, nous allons écouter, eh bien, Grand Corps Malade, Mesdames.
Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre gente que j'admire, qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages, et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort, prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien, l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur? Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ce sans sourciller, celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie.
You are the only one. You are the arm, you are the only one, the only, you are the only one, you are the arms, you are, yes you are.
Et comme souvent quand le soleil se lève après les drames, les mains pleines de courage, vous serez là, mesdames. Au milieu des décombres, partageant vos espoirs et vos doutes, veuillez accepter cet hommage aux femmes de Beyrouth.
Merci beaucoup. Au piano Mosiman. Merci infiniment.
Merci aussi, Grand Corps Malade, pour cette chanson qui nous fait chaud au cœur. Je vais maintenant vous lire des extraits d'un livre qui s'appelle Viticultrice. 13 femmes racontent leur travail de la vigne et du vin. C'est un livre qui est paru en 2024 aux éditions Dire le Travail. Il a été coordonné par Françoise Carreau et 13 femmes racontent leur travail de la vigne et du vin. Margot, Hélène, Lila, Stéphanie, Solange, Aline, Claudine, Véronique, Aurélie, Mireille, Sylvia, Anna et Eva. Parmi ces 13 femmes, j'en ai choisi 3 et je vais vous lire des extraits de leurs témoignages. Tout d'abord, Hélène. Travailler en équipe avec des femmes. Quand on a redémarré la vigne, c'était principalement avec des femmes. Pour certains travaux saisonniers, on a eu des hommes. Mais l'équipe permanente était composée de femmes. Nous établissons des contrats très respectueux du temps de travail et des congés, comme de l'organisation de leur vie de femme, un sujet sensible pour nos salariés. Mon mari a toujours été très respectueux du rôle d'une mère. Il a pu l'observer dans notre famille. J'ai été le pilier stable de la maison. Je pense que moi, à la maison, je gérais tout ce qu'une femme peut gérer. La cuisine, les tâches ménagères, les enfants, etc. On a réussi à caler beaucoup d'activités sportives, musicales ou de lecture pour les enfants. J'y ai toujours veillé, mon mari l'a toujours respecté. J'avais une nounou extraordinaire, dont la vie a aussi été impactée par la vigne. Elle a été très souple avec nous et avec les enfants. Quand on travaille avec des femmes, il faut composer avec leur vie de femme. Un jour, une jeune femme a appelé mon mari pour lui dire qu'elle était disponible et avait envie de travailler avec lui. Le poste s'est créé avec elle et pour elle. Pour moi, c'est pareil. Quand je suis arrivée, le terrain avait été préparé. On a aussi adapté les horaires de travail de nos deux salariés. On ne leur a pas demandé d'être présente à des horaires choisis par nous. On savait qu'elles devaient conduire et récupérer leurs enfants à l'école et on a adapté leurs horaires en fonction de leurs préoccupations familiales. Si elles n'ont pas de soucis d'organisation, elles sont mieux dans leur tête et dans leur travail et on a tous à y gagner collectivement. Il y aurait beaucoup de patrons qui devraient écouter ces paroles de Hélène. Le témoignage de Lila, il faut y aller en douceur avec la vigne. Je suis très contente de travailler dehors. Il y a des moments où je suis dans une plénitude totale, quand tout fonctionne dans la vigne, que le temps est bien, qu'il n'y a pas de boue sur les bottes, etc. Puis il y a les moments où c'est un peu plus lourd. J'ai appris au fil des ans à accepter le fait d'être dehors, qu'il y ait la pluie, le gel, le mauvais temps. En prenant les choses avec le cœur, je les fais différemment. Tirer la tronche toute seule dans la vigne, toute la journée, avec le mental qui ne va pas, ce n'est pas une solution non plus. Au fur et à mesure des années, c'est quelque chose que j'accepte de plus en plus. Je ne dis pas que je suis open tous les jours, mais c'est très rare que je m'énerve dans mon travail. J'ai quand même passé des moments où je me suis bien énervé. Pourtant, s'il y a une chose qu'il ne faut pas faire dans la vigne, c'est s'énerver, sinon elle nous donne des baffes. La vigne, c'est un travail dur. Le cep, c'est dur comme matière. Il faut y aller en douceur avec la vigne. C'est impressionnant. Plus on va vite, plus on se fait mal. Quand on tire trop fort, qu'on fait n'importe quoi. On pourrait délier le bois pour le tirer, mais au lieu de ça, on tire, ça ne vient pas. Et pam, la baguette nous gifle. Il faut y aller en douceur avec la vigne. Et maintenant, Eva et son camion. Quand on explique au patron qu'on est en camion, ça ne pose pas de souci. Après, ça dépend. Une fois, avec mon compagnon, on avait postulé du côté des grands crus, là où ils sont connus pour être bien friqués. Ils avaient l'air enchantés de savoir qu'on avait une bonne expérience. Mais quand on a dit qu'on était en camion, on nous a raccrochés au nez. Tous ne vont pas nous le dire directement, mais ils nous proposent un coin caché par les arbres, loin du village. On n'est pas les bienvenus dans certains paysages. Chez les riches, c'est mal vu d'avoir les camions qui rôdent autour de leurs parcelles de vignes prestigieuses. Mais dans la plupart des cas, on peut se garer près des vignes ou dans les cours des exploitations. Parfois, on nous dit qu'il y aura un petit coin pour nous et ce n'est pas vrai. Ils sont sans remords de nous faire traverser la France pour rien. Voilà des extraits de ces témoignages de femmes pour qui le vin et une partie de leur vie. Elles nous racontent les quelques semaines de vendange, joyeuses mais stressantes, qui ne peuvent faire occulter tous les autres jours de l'année quand il faut, au fil des saisons, s'occuper de chaque pied comme d'un enfant. Qu'elles soient en bio, en agriculture raisonnée ou en agriculture conventionnelle, toutes parlent dans ce livre des gestes à faire et à répéter, mille et une fois, de leur solitude dans de si beaux paysages, ou en équipe, dans lesquelles il faut trouver sa place et son rythme. Elles évoquent bien sûr le froid, l'humidité ou le soleil qui brûle, leur corps qui peine et qui s'use, la météo changeante et les variations du climat qui transforment leur travail et son organisation, sans oublier leurs réflexions sur les usages de la chimie pour soigner et traiter la vigne et garantir de bonnes récoltes. Elles évoquent aussi que la viticulture est une affaire de famille et de couple, le plus souvent. La place des femmes y est particulière. Elles sont parfois avec une autre activité professionnelle. Les chefs d'exploitation sont l'exception. Les conjointes de vignerons sont souvent salariées, mais pas toujours. Et les autres femmes ont des contrats saisonniers à temps partiel, le plus souvent. Je vous invite à découvrir ces 13 histoires singulières de femmes travailleuses de la vigne et du vin parues aux éditions Dire le Travail. Vous pouvez retrouver leurs contacts sur le site diretletravail.coop, C2OP comme coopérative. Nous espérons interviewer Françoise Carreau et peut-être une ou deux viticultrices pour une prochaine émission de Remue Ménage Féministe. Dès que ça sera calé, on vous le dira.
Je me permets de convoquer les quelques muses que je taquine. J'en profiterai pour évoquer les éternelles pas féminines, les grosses, les moches mal fagotées qu'on voit pas dans les magazines, boulets des canons de la beauté, les éternelles pas féminines. Je veux chanter les tartes, les exclus du mystère, les rayés de la carte qu'elles lisent à l'envers. Je veux chanter ces filles oubliées des fantasmes et des talons aiguilles, mais jamais des sarcasmes, les sauvages et les frustes qui ne parlent qu'en jurons, et celles qui font juste comme les hommes font. Ça se fait pas, c'est pas bien quand on est une femme. Ça se fait pas, c'est pas bien, c'est pas féminin.
Madame,
celles qui ne sont ni belles ni bonnes, celles qui mettent jamais de ballerines, celles qui viennent pas quand on les sonne, les éternelles pas féminines, les mal baisées, les pas baisables, les bonnes sœurs et autres gouines. Sont-elles femmes moins véritables, les éternelles pas féminines? Oh, qu'elles soient louées sur le ton des commères, dans la langue salée, comparées aux poissonnières, aux gloires à toutes celles qui conduisent le bal, qui font mal la vaisselle et qui rasent pas leurs poils, à celles qui se foutent du bonheur d'être mère et qui prennent la route d'une vie singulière. Ça se fait pas, c'est pas bien quand on est une femme. Ça se fait pas, c'est pas bien, c'est pas féminin.
Madame,
il vous aura pas échappé dans le portrait que je dessine, qu'un peu de moi s'y est glissé en éternelle pas féminine. Depuis toujours en pantalon, le doigt souvent dans la narine, car je suis sans contrefaçon une éternelle pas féminine. Car je suis sans contrefaçon une éternelle pas féminine.
Madame, nous chantait Juliette dans l'émission Remue Ménage Féministe. Et vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4. Aujourd'hui, des lectures, des informations qui continuent.
Et donc, je vais vous proposer quelques rendez-vous militants. Donc, prenez vos petits agendas pour noter les informations qui vous intéressent et un crayon. Le 16 septembre, à la Cité Audacieuse, la Fondation des Femmes, la Ville de Paris, la Ligue des Femmes Iraniennes pour la Démocratie, le Comité du Prix Simone de Beauvoir pour la Liberté des Femmes, le Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir et la Fondation Narges Mohammadi vous invitent à une soirée pour les 2 ans du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Le 16 septembre marquera les 2 ans de la mort de Jina Mahsa Amini en Iran. À cette occasion, la Fondation des Femmes renouvelle son soutien au mouvement Femmes, Vie, Liberté et inaugure un cycle de conférences à la Cité Audacieuse. Révolutionnaire et héroïne, en soutien aux voix des femmes du monde entier, Iran, Afghanistan, Palestine, Israël, etc. Ensemble, faisons écho à leur lutte contre les viols comme armes de guerre, contre l'apartheid de genre, contre les guerres et les crimes de guerre, pour les droits, la dignité et la vie des femmes. Rendez-vous le 16 septembre 2024 à la Cité Audacieuse à partir de 18h. La Cité Audacieuse se trouve 9 rue de Vaugirard et vous pouvez vous inscrire pour être informé des autres soirées de ces conférences. Le 20 et le 22 septembre, ce sera les journées du matrimoine. Depuis 2015, l'association HF Île-de-France, Hommes-Femmes en Île-de-France pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la culture, met en lumière le temps d'un grand week-end, le week-end des journées du patrimoine, des créatrices lors de multiples événements sélectionnés pour l'occasion. Des concerts, des expositions, des films, des lectures, des performances, des spectacles. Cette année, la figure mise à l'honneur de notre matrimoine est Fanny Raoul, qui a vécu de 1771 à 1833, une femme du peuple, autrice, poétesse, journaliste et philosophe, dont les revendications font écho au combat d'aujourd'hui. Faute de portrait, l'image proposée pour cette édition est une libre représentation de cette créatrice, l'occasion de rappeler à quel point l'invisibilisation des femmes a toujours été d'actualité et leur réhabilitation encore nécessaire. Vous pourrez découvrir les 29 rendez-vous gratuits en Île-de-France, à Paris, Bobigny, Châtillon, Le Chesnay-Rocancourt, Les Lilas, Noisy-le-Sec ou encore Romainville, en allant sur le site lematrimoine.fr et ou en écoutant notre émission de la semaine prochaine qui aura pour invité des militantes de Hommes-Femmes Île-de-France. Enfin, un autre rendez-vous d'un autre registre, celui-là. On vous donne rendez-vous au tribunal correctionnel de Paris dans le 17e arrondissement, le lundi 30 septembre à 13h30 et le mardi 1er octobre à 13h30. Ce jour-là se tiendra le procès de militantes de la CGT contre la CGT. Un appel à la solidarité syndicaliste et féministe a été lancé au mois de mai dernier pour les soutenir par le réseau Résifem, un réseau de militantes de la CGT, de la FSU, de Solidaire, de FO, du syndicat de la magistrature et du syndicat des avocats de France. Je vais vous lire des extraits de cet appel pour que vous compreniez la situation. En 2016 et 2017, plusieurs militantes de l'Union syndicale CGT de la ville de Paris sont harcelées ou agressées par des membres de leur organisation. Contre ces agressions physiques et sexuelles, le collectif Femmes Mixité du syndicat se réunit et mène plusieurs actions. Elles font face à une immense hostilité de certains militants. Christine, membre de ce collectif, est co-secrétaire général du syndicat CGT Petite Enfance de la ville de Paris, donc un des syndicats qui compose l'Union syndicale CGT Ville de Paris, fait au congrès de l'UDCGT de Paris en 2020 le rapport des actions menées par son collectif. Et c'est pour cette raison que Régis Vieselli, alors secrétaire général du syndicat CGT Déchets et Assainissement, porte plainte contre elle pour diffamation. La Confédération CGT est elle aussi poursuivie en la personne de Philippe Martinez, alors secrétaire général, pour le travail d'enquête mené par la cellule de veille confédérale contre les violences sexuelles. Ce procès en diffamation est une première dans l'histoire de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein du syndicat. Ce procès en diffamation est une démarche patriarcale de musellement de la parole des femmes, de silenciation de la parole des femmes et de leur soutien. Cette procédure Bayon vise à punir celles qui ont parlé, qui ont osé parler, et exerce une telle pression que le découragement risque de l'emporter. Mais Christine ne doit pas être condamnée pour diffamation. Si la CGT, au travers de Philippe Martinez, était condamnée pour le travail de la cellule de veille, ce serait un très mauvais message pour toutes les organisations syndicales qui tentent de faire sanctionner les militants machistes. L'ensemble des organisations syndicales est en effet confronté aujourd'hui à leur responsabilité pour prévenir, protéger les victimes et sanctionner les violences sexuelles perpétrées en interne, comme ils le font quand ça se passe dans les entreprises. Christine a été forcée de quitter la CGT où elle militait depuis 20 ans à la suite de cette affaire. Elle est aujourd'hui contrainte de se lancer dans des démarches juridiques coûteuses pour se défendre. Les faits de violences sexistes commises contre les victimes directes remontent à 2016, soit plus de 8 ans. Chaque nouvelle attaque est une résurgence violente du traumatisme vécu, pour Christine comme pour toutes les victimes. S'attaquer à notre camarade, c'est s'attaquer à toutes les femmes de la CGT, comme de tous les syndicats qui ont été, sont ou sont victimes, ou des soutiens des victimes. Comme nous l'exigeons auprès de nos employeurs, notre camarade devrait bénéficier d'une prise en charge globale et solidaire de tous les frais afférents à cette attaque en justice. Le procès se tiendra donc au tribunal correctionnel de Paris les lundis 30 septembre et mardi 1er octobre à 13h30. Nous vous appelons à être présents de façon solidaire à ces séances juridiques.
Olympe au naturel, fille de Pompignan, Olympe universelle et fille de Montauban. Olympe au naturel, fille de Pompignan, Olympe universelle et fille de Montauban. Olympe, tu as 200 ans et toujours pas démodé. Ils sont nombreux tes prétendants à récupérer tes idées, pourvu que de notre vivant on les voit se réaliser. Olympe au naturel, fille de Pompignan, Olympe universelle et fille de Montauban. Olympe au naturel, fille de Pompignan, Olympe universelle et fille de Montauban. Tu luttes contre les vents, l'éventail des idées, préconçues ou éventées, et sûr que tu as gêné les nantis, les négriers, tes voisins et le clergé. Olympe au naturel, fille de Pompignan, Olympe universelle et fille de Montauban. Olympe au naturel, fille de Pompignan, Olympe universelle et fille de Montauban. Olympe à droite, Olympe à gauche, Olympe politisé, Olympe au centre de l'idée qu'il était temps désormais d'accorder même aux féminins les droits du citoyen. Olympe au naturel, fille de Pompignan, Olympe universelle et fille de Montauban. Olympe au naturel, fille de Pompignan, Olympe universelle et fille de Montauban. Olympe patiente, Olympe pulsive, Olympe pardonnée, Olympe pétueuse, Olympe trépide. Ta tête ils l'ont coupée, Olympe, Olympe impératrice de toute liberté.
Olympe, au naturel, C'est Olympe de Gouges dont Elisabeth a parlé précédemment. Alors, Olympe de Gouges, elle dit « La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit avoir également celui de monter à la tribune. » Olympe, comme le disait tout à l'heure Elisabeth, est une femme de lettres et de tête. Elle est née en 1748. Elle est morte en 1793, guillotinée. Elle s'illustre dès les premières heures de la Révolution par ses idées de réforme. Devant l'Assemblée constituante, elle réclame l'égalité des sexes. Avec sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791, son œuvre la plus célèbre, cette première théoricienne du féminisme reprend point par point la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789 en une inversion parodique. Voici ce qu'elle écrit. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Son texte, à l'instar de son exhortation finale, « Femme, réveille-toi », garde une étonnante actualité. Ça fait penser aussi au slogan pour les iraniennes. Femme, excusez-moi, femme, vie, liberté. Là, c'est femme, réveille-toi. Et voici ce qu'elle écrit. Homme, es-tu capable d'être juste? C'est une femme qui t'en fait la question. Tu ne lui ôteras pas du moins ce droit. Dis-moi, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe? Ta force? Tes talents? Observe le Créateur dans sa sagesse. Parcours la nature dans toute sa grandeur, dont tu sembles vouloir te rapprocher. Et donne-moi, si tu l'oses, l'exemple de cet empire tyrannique. Remonte aux animaux, consulte les éléments, étudie les végétaux. Jette enfin un coup d'œil sur toutes les modifications de la matière organisée. Et rends-toi à l'évidence quand je t'en offre les moyens. Cherche, fouille et distingue, si tu le peux, les sexes dans l'administration de la nature. Partout tu les trouveras confondus, partout ils coopèrent avec un ensemble harmonieux à ce chef-d'œuvre immortel. L'homme seul s'est fagoté un principe de cette exception. Bizarre, aveugle, boursouflé de science et dégénéré, dans ce siècle de lumière et de sagacité. Dans l'ignorance la plus crasse, il veut commander en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles. Il prétend jouir de la révolution et réclamer ses droits à l'égalité, pour ne rien dire de plus. Olympe de Gouges, dans l'émission Remue-Ménage féministe, sur Radio Libertaire 89.4.
Je vais maintenant vous présenter un livre qui vient de paraître la semaine dernière, mais que j'ai eu l'opportunité de lire en avant-première grâce à une amie libraire qui en avait reçu un exemplaire en prévision de sa parution. Ça s'appelle « L'invisible Madame Orwell ». C'est un livre qui a été écrit par Anna Funder et qui est paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. C'est vraiment très intéressant parce que ça fait écho aux 10 femmes mises en valeur pendant les JO. Ça montre comment on invisibilise les femmes. Voilà ce que dit la quatrième de couverture. Comment faire disparaître une femme de l'histoire? Et pourquoi? Anna Funder, qui est écrivaine, mais qui est aussi écrasée par ses responsabilités familiales, se réfugie dans les textes de George Orwell qu'elle admire. Elle lit ses textes, elle lit ses biographies, et tombe soudain des nues. Il y a une femme dans l'ombre du géant, reléguée à quelques discrètes notes en bas de page. Son nom? Hélène O'Shaughnessy. Je prononce sans doute très mal ce mot anglais. Grâce aux lettres d'Hélène et aux témoignages de ses proches, Anna Funder soulève le voile sur la vie privée des Orwell, les accompagne à Barcelone lors de la guerre civile espagnole, puis à Londres sous les bombes. Elle s'interroge sur ce qui fait un grand écrivain. Le travail, bien sûr, mais ce dernier nécessite du temps et un quotidien exempt de contraintes. Autant de conditions que l'épouse modèle se doit d'assurer à son propre détriment. L'invisible Madame Orwell est un roman vrai d'une femme brillante et engagée, mais volontairement effacée au profit d'un mythe, celui du créateur. Refusant la version officielle et les omissions, Anna Funder redonne une voix à celle qu'il avait perdue. Elle livre une réflexion sans concession sur la condition des femmes. Hélène O'Shaughnessy ne sera désormais plus réduite au rôle de subalterne derrière l'auteur légendaire de 1984. Le légendaire George Orwell tombe un peu de son piédestal pour être un macho comme les autres, mais l'invisible n'est jamais condamné à le rester. Je vais vous lire un extrait de ce livre qui explique bien la démarche de l'autrice. Lorsque j'ai compris qui aurait dû être cité, mais ne l'était pas, alors les biographes m'ont paru travailler en étroite collaboration avec leur sujet, comme si ces auteurs appartenaient au même club sans nom, dont la première règle est « ne donnez pas aux femmes le premier rôle ». Ne parlez pas de ce que nous ou notre héros leur devons, en tant que mère, enseignante, éditrice, mentoresse ou mécène, ni de ce que nous leur faisons subir, à nos petites amies, à nos amantes, à nos épouses, à nos maîtresses ou aux personnes prostituées. Le patriarcat est une fiction dont tous les personnages principaux sont des hommes et dans laquelle le monde est appréhendé du point de vue masculin. Les femmes sont castées pour les seconds rôles ou réduites à une caste inférieure. C'est une fiction dans laquelle nous vivons toutes et tous, si puissante qu'elle a remplacé la réalité. Nous ne voyons pas d'autres récits possibles, nous ne nous projetons pas dans d'autres rôles parce qu'il n'existe pas d'alternative. Dans cette fiction, le tour de magie qui fait disparaître la femme a deux objectifs principaux. Le premier, c'est d'effacer tout ce qu'elle fait. De la sorte, lui semble avoir tout fait tout seul. Le second objectif de cette magie, c'est de faire disparaître tout ce que lui a fait aux femmes. Ainsi, il est innocent. Ce tour de magie, c'est le cœur sombre du double pensée patriarcale. En lisant ces biographies, j'ai pris conscience que de même que le patriarcat permettait à Orwell de bénéficier du travail invisible et gratuit de sa femme, il permettait également au biographe de donner l'impression qu'il avait tout accompli seul. Ceux-ci ont raconté certains faits dans un monde qui avait déjà fait le tri en faveur d'Orwell. La technique narrative du patriarcat et la biographie se combinent à la perfection pour mettre de côté les femmes qui ont formé et nourri intellectuellement Orwell, qui l'ont aidé et influencé, à la manière des contreforts qu'on retire une fois l'édifice achevé. Quelle belle définition du patriarcat! Merci Anna Funder d'avoir rendu visible Madame Orwell, de nous l'avoir fait connaître et d'avoir aussi avoir ce courage de parler, de dire l'invisible, comme dans toute situation par exemple de violence faite aux femmes où le silence est la plus grande complicité avec les violences et avec les agresseurs.
Je pense qu'à partir du moment où mon bonheur dépend d'un homme, je suis une esclave et je ne suis pas libre.
La nuit, on colle, le jour on casse du troll. Dans la vraie vie, sur les réseaux, on est prêt à risquer notre peau. Violeur, prends peur, on sait que c'est toi l'agresseur. Qu'est-ce que tu crois? Nous on te voit. Nous on te lâchera pas, parce que nous tu sais, nous on n'est pas des filles sages, pas plus que des frivolages. Nous on est juste des meufs sûres, sûres d'avoir des droits. Au moins je sais même que toi, tant qu'on nous les donnera pas, nous oui on les arrachera à monsieur patriarcat. Celui des hommes qui dominent, et puis de la bite qui culmine, en haut de la pyramide, de ton sexisme assumé. De mecs aux privilégiés, qui croient pouvoir nous dompter. Sauf que tu sais, nous on est des guerriers, de lumière forte et fière. Du mal en rut sur le pavé, dans les métros, pas de répit pour les salauds. Le jour, on marche Dégagez patriarche, soyez pas surpris, c'est la fin du crédit, le temps des femmes, c'est aujourd'hui, parce que nous mais oui, nous on est féministes, oui féministes radicales, après tout c'est bien normal, on fait juste que se défendre du monstre ultra-libéral, comment pas devenir misandre, dans ce monde liberticide, dans ce monde féminicide, qui flingue notre dignité, à chaque occasion trouvée, qui croit pouvoir nous soumettre, qui croit pouvoir nous la mettre, qui croit pouvoir nous briser, sauf que tu sais, nous on est, nous on est, nous on est, nous on est, des guerriers, de
de lumière, chantait Mathilde. Plus qu'un quart d'heure dans l'émission Remue Ménage Féministe sur Radio Libertaire 89.4.
Et pour finir ces lectures de l'été, je vous propose un livre qui s'appelle Kiffe ton cycle de Gaëlle Baldassari. C'est un livre qui répertorie tout ce que toute jeune fille, jeune femme, vieille femme, toutes les femmes devraient savoir. Tout sur le cycle, se poser la question de qu'est-ce qu'un cycle normal, faire le tour des problèmes du cycle menstruel et se proposer aux femmes d'apprendre à écouter leur cycle, s'observer pour mieux comprendre, se coacher, comme elle dit, c'est des termes un peu à la mode, c'est un livre qui parle bien du vocabulaire d'aujourd'hui, sur les titres, on va dire, de chapitres et tout ça, mais qui est quand même très intéressant parce qu'elle explique vraiment comment notre corps fonctionne, quelle est la place des hormones dans le cycle, le fait qu'en fait, on n'a pas un cycle, il en a en fait trois qui se regroupent, c'est les cycles ovariens, utérins et cervical. Et donc, elle nous explique tout ça. Je ne vais pas vous le lire à l'antenne parce que c'est un peu fastidieux, mais je vous suggère vraiment d'acquérir ce livre, car ça vous parle vraiment de toute notre vie de femme, depuis la ménarche, c'est un mot que je viens de découvrir, qui est la première fois où on a ses règles. On apprend ainsi qu'il faut environ 2 ans pour que le cycle se mette vraiment dans une certaine régularité jusqu'à la ménopause. Et donc, elle nous parle aussi de la ménopause et voilà, toute notre vie de femme, en nous donnant beaucoup de conseils. Du coup, elle a monté un site qui s'appelle Kiffe ton cycle, et vous pouvez retrouver des conseils, des propositions de stages de formation pour mieux vous connaître. Et je trouve vraiment que c'est un livre très précieux. Kiffe ton cycle, c'est paru dans Larousse Poche, ça vaut 7,95€ et vous saurez tout, ou presque, sur les cycles des femmes. Et il n'est pas interdit aux messieurs de le lire pour comprendre ce qui nous arrive et pourquoi notre vie est plus compliquée que la leur du point de vue des hormones et de notre cycle menstruel qui nous bouleverse à peu près toutes les 4 semaines, mais pas toujours, et donc c'est un peu imprévisible. Merci Gaëlle Baldassari d'avoir fait ce travail. Et puis, Pour terminer cette émission, je vais vous donner quelques rendez-vous de spectacles. Tout d'abord, le 12 septembre, donc après-demain, au cinéma Le Luminor Hôtel de Ville, à Paris, 20 rue du Temple, aura lieu la projection du film Ok Podem Aspalavras de Luisa Sequeira et Luisa Marino. Publié en 1972 par Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta et Maria Velo de Costa, le livre Nova Cartas Portuguesa, Nouvelle Lettre Portugaise, a été saisi par les autorités et les autrices poursuivies en justice. La traduction et la publication en Europe et aux États-Unis, ainsi que la couverture de l'affaire par les médias étrangers, ont provoqué une vague de protestations internationales sans précédent, avec des manifestations féministes devant les ambassades portugaises et la solidarité d'artistes et d'écrivaines telles que Delphine Seyrig, Marguerite Duras, Simone de Beauvoir et Doris Lessing. Pendant plusieurs années, Luisa Marino et Luisa Sequeira ont travaillé sur ce film avec des interviews des trois écrivaines, du matériel d'archives et l'animation de Sama qui illustre des moments clés de leur persécution. Vous pourrez donc voir ce film le 12 septembre à 20h au cinéma Le Luminor, Hôtel de Ville, 20 rue du Temple à Paris, au métro Hôtel de Ville. Le 28 septembre, le jour de la manifestation pour le droit à l'IVG partout dans le monde, si vous ne savez pas quoi faire le samedi soir, venez à 19h45 au théâtre de l'Archipel, 17 boulevard de Strasbourg dans le 10e arrondissement. Vous y découvrirez le troisième album qui vient de sortir des presses de la chanteuse Mimi Mitchell, que nous aimons beaucoup à Remue-Ménage Féministe, puisque nous passons souvent de ses chansons, notamment les chansons extraites du CD « Il faut venger Gervaise » qui a été réalisé à l'occasion des 150 ans de la Commune de Paris. Mais vous verrez que Mimi Mitchell a plus d'une corde à son arc comme chanteuse féministe et militante. Nous espérons que vous serez nombreux et nombreuses à soutenir cette artiste. Et puis, comme chaque année, nous n'avons pas eu le temps de les inviter pour leur faire présenter le festival, mais le festival de films documentaires féministes Femmes en résistance est toujours là, à Arcueil, à l'espace municipal Jean Villard. Le 28 septembre à partir de 13h, le 29 septembre à partir de 14h. Pendant ces deux jours, une petite restauration est préparée par l'association Carrera. Le titre de cette année, c'est « Femmes en résistance aux frontières ». Et nous avons donc plusieurs séances. Ça commence le samedi à 13h avec tout d'abord un petit documentaire fait dans le cadre du concours « Besançon contre le sexisme » par des lycéens du lycée Clémenceau à Montpellier. Ça s'appelle « Une belle journée » et ce court-métrage a reçu le prix « Femmes en résistance ». Puis, un film de Eva Poirier, « Un temps pour soi ». Au sein d'un atelier de masques sur visage, plusieurs femmes se confient. Portrait de leur rencontre au centre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse. Et c'est la force d'un collectif qu'elles ont créé pour tenir, avancer et s'autoriser à être elles-mêmes. Et puis un moyen-métrage de 56 minutes réalisé par Anna Moisenko, dessiné pour résister en Russie la dessinatrice Victoria Lomasko. Depuis 10 ans, Victoria Lomasko a consacré tout son travail à faire la chronique de la Russie de Poutine. Une année avant l'invasion de l'Ukraine, elle commence une longue enquête dans laquelle elle questionne l'interdépendance de la violence domestique et de la violence d'État. À 15h30, la séance s'appelle « Femmes en résistance ». T'es une fille ou un garçon ? Un court-métrage du concours « Besançon contre le sexisme » qui nous vient de Tours. Un hommage à Giovanna Marini. Et puis un film de Catalina Villar, Anna Rosa. À partir d'une seule photo d'identité de sa grand-mère dont personne ne lui parlait jamais, la réalisatrice mène une véritable enquête sur cette femme qui a subi une lobotomie. Elle explore les liens de la psychiatrie avec la société de son temps et la place particulière qui tenait les femmes. À 17h30, Radio Bégom, la voix des résistantes. Et Hoy Ino Manana au Chili. Des femmes de tous les horizons de gauche se regroupent pour combattre la dictature de Pinochet et le patriarcat. À 20h15, figure imposée de Bertie Bach, une artiste plasticienne qui a rencontré des femmes exilées accueillies à la Maison des Femmes à Pau. Au lendemain de l'Odyssée est un film de Helen Doyle qui vient du Canada. Au terme d'un périple souvent dantesque, des centaines de migrantes nigérianes, victimes de traite des êtres humains à des fins de prostitution, arrivent en Italie. Des femmes, des associations accueillent leurs récits, leur énergie à survivre et à se réinventer. Vous pouvez retrouver tout, là je vous ai donné tout le programme du samedi, vous pouvez retrouver tout le programme en allant sur le site resistancedefemmes.wordpress.com. Et nous espérons vous croiser à ce festival. Nous irons sans doute le dimanche, puisque le samedi, nous serons à la manifestation pour le droit à l'IVG et au concert de Mimichel le soir. Encore quelques rendez-vous. Si l'histoire vous intéresse, nous vous proposons deux balades, l'une à Belleville et l'autre autour de la place de la République, avec Anouk Colombani de l'association Rue de la Commune, qui est guide conférencière. Balade résistante se déroule autour de Belleville et de Ménilmontant. Ça aura lieu le 27 septembre à 14h30, le 2 octobre à 15h, le 12 octobre à 14h30 et ça dure environ 2 heures. Entre 1940 et 1944, nombreuses furent les femmes à entrer en résistance. Elles étaient agentes de liaison, opératrices radio, coordinatrices de réseau. Elles ont distribué des tracts, ont organisé des manifestations et des grèves. Certaines ont pris les armes, notamment au sein des FTPF et de FTP MOI. Nombreuses furent torturées, déportées et assassinées. Durant des semaines, nombreuses furent celles à dépérir dans la prison des Tourelles, dont les bâtiments se dressent toujours à la lisière de Paris. Elles arrachèrent le droit de vote, mais la garde finie, les femmes furent prises pour cible quand elles avaient collaboré. Et lentement, l'histoire de celles qui avaient tout risqué s'est effacée. À travers d'un parcours autour de Belleville et jusqu'à la Porte des Lilas, vous suivrez les traces de Madeleine Riffaut, Liliane Lévy, France Bloch, Danielle Casanova ou Paula Dieskowska. Et puis, la même Anouk Colombani vous propose de découvrir les communardes dans une balade urbaine dans le 10e arrondissement. Ça se passe le 14 septembre à 15h, le 4 octobre à 14h30 et le 13 octobre à 15h, ça dure aussi 2 heures. Elle nous parlera donc des communards dans le 10e arrondissement, comment elles se sont organisées pour faire reconnaître leur travail, comment elles montèrent des barricades. Les survivantes ont lutté pour la mémoire de toutes celles qui ont lutté en écrivant et en participant à la création d'associations méloriennes et en se soutenant les unes des autres. De leurs engagements, Anouk Colombani a retrouvé des traces nombreuses sur des lieux emblématiques ou invisibles de l'arrondissement, comme la mairie d'arrondissement, l'ex-prison Saint-Lazare ou l'église Saint-Laurent. Des lieux qui parlent de la condition des femmes, des répressions qu'elles subissent, mais aussi de leurs luttes toujours nombreuses. Une chanteuse que nous diffusons aussi régulièrement dans Rémy Ménage Féministe, Agnès Bill, sort un nouvel album, 25 ans de la vie d'une femme. Elle vient nous le présenter au théâtre de l'Arrache-Cœur, à la salle de l'Alizé. Ça se passe le 4 octobre à 20h et ça dure 1h30. Je pense que c'est à Paris, mais je n'ai pas l'adresse précise. Agnès Bill, 25 ans de la vie d'une femme. Et puis, une soirée qui est lointaine, c'est le 27 novembre, mais je vous en parle déjà parce que la billetterie est déjà ouverte. Un concert solidaire Nos Voix pour Toutes, une soirée exceptionnelle à l'Adidas Arena, animée par Muriel Robin et Anne Le Nen. Ce sont des artistes engagés qui se produiront en duo ou en trio inédit. Le 27 novembre, ce ne sera pas juste un concert, mais une mobilisation collective et festive pour dire stop aux violences faites aux femmes. Pour aujourd'hui, Rémy Ménage Féministe vous dit au revoir. Vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler des journées du matrimoine. Au revoir, Kadia. À bientôt.
Au revoir
à toutes et à tous.
À toutes et à tous. Au revoir, Elisabeth.
Bonsoir. On vous propose une chanson qui s'appelle « Dans nos champs ». qui est une chanson écrite lors d'une écriture collective par Les Courageuses, une chorale féministe de Grenoble, avec quelques petites paroles modifiées par nos soins et des bouts d'Anne Sylvestre dedans. C'est sur l'air de Fio que c'est Samaridar de La Mal Coiffée.
L'une de l'autre ignorée, on s'est connue, on s'est regardée. On s'est parlé, on a chanté, avec l'envie de se raconter nos histoires et toutes nos idées. Mais tout ça s'était vite plié, le répertoire était pas épais. Où sont passées les héroïnes de la lutte et du quotidien? D'elle il ne reste presque rien. Eh eh ah, eh 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 ah, eh eh ah, eh 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 ah. Dans les champs, lorsqu'on est présente, on est souvent seul et fragile. On se lamente dans une attente, soit repoussante ou bien sublime, objet sexuel ou bien victime. Dans cet idéal libertaire, nous sommes bonnes au linge à étendre. On ne veut plus être de ménagères, de la chair tendre à défendre. On ne veut plus se laisser taire. Eh eh ha, eh 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 ha, eh eh ha, eh 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 ha. Comment faire une révolution quand dans nos imaginations, dans tous ces rôles bien genrés, nous nous retrouvons confinés et nos idées polluées. Quand on ne trouve dans nos chansons ni de guerrières ni d'héroïnes, et on vous parle même pas d'Aiguin, tout ce qui nous ferait rêver gamine, qui ferait rêver les frangines. Et si les chants qui nous ressemblent, on les écrivait tout ensemble, des chants qui racontent nos histoires et disent nos rages et nos espoirs, donnent du courage et du pouvoir. Eh eh ah, eh 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 ah, eh eh ah, eh 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 ah. Si on se retrouvait frangine, ça nous ferait gagner du temps. Unissant nos voix, j'imagine qu'on en dirait 20 fois autant, qu'on en dirait 20 fois autant, et qu'on ferait changer les choses, et je suppose aussi les gens. Et qu'on ferait changer les choses. Allez, on ose, il est grand temps. Allez, on ose, il est grand temps.